Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulard Affût. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec bien sûr à mes côtés l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore une fois de m'accueillir. Poulain Raffute, hein, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby en long, en large et en travers. Celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref, partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité du jour qui n'est pas verni ces dernières semaines.
Oui, ce n'est pas mon histoire que je vais vous raconter, mais ça y ressemble, non pas en tout point. C'est une blessure qu'il traverse aujourd'hui, mais bon, avant tout, je vais lui dresser son petit portrait. On le sait, la Pro D2 et son championnat est un vivier à pépites depuis une bonne dizaine d'années maintenant. On n'énumérera pas tous les joueurs passés par ce championnat après engagé qui n'a rien à envier à notre cher Top 14. Biarritz, après la génération des Yashvili, Arin Yordogui et autres Thion, a vu naître une génération de types talentueux, prêts à relever le défi d'un retour en top 14 dès 2014 d'ailleurs. Les frères Lucu, Kylian Hamdaoui ont pu éclore et s'aguerrir avant de rejoindre légitimement notre cher grand top 14. Gonzalo Quesada, qui a eu notre invité sous ses ordres, dit de lui qu'il est un joueur de caractère, leader, qui, lors de son passage à Biarritz, a été impressionné par l'homme et son attachement au club et ses valeurs. Impressionnant aussi par le travail sur lui-même, au-delà du joueur, afin de se connaître mieux et grandir. Gonzalo sait reconnaître les bons mecs, c'est pourquoi je l'ai sondé en amont de notre échange. Alban Placine, toujours selon les dires du coach argentin, est un homme sain, gentil, généreux et engagé, sûr et en dehors du terrain. Tu me diras si je me suis trompé, Alban, juste après, mais formé à Korasnaï...
Korasnaï.
Voilà, très bien. Korasnaï, avant de faire sa formation au Biarritz Olympique, il devient capitaine sous l'ère Quesada en août 2017, avant de signer l'année d'après au Stade Toulousain. Champion de France en 2019, avec le fameux Stade Toulousain, il s'épanouit dans un effectif pléthorique et pour sa troisième année dans le club champion de France en titre, il va disputer une finale de Champions Cup et sûrement jouer les phases finales de top 14. Important de signaler aussi en parallèle de sa carrière, il a un diplôme d'ostéo, comme quoi il est possible dans notre cher rugby d'anticiper son avenir intelligemment et de préparer, bien sûr, cet avenir. On va se régaler donc à échanger avec un homme à la fois discret et engagé. Bienvenue Alban Placine.
Merci beaucoup, bienvenue, merci à vous, pardon.
Non, je t'en prie, bienvenue dans ton salon, parce que les gens ne savent pas, on est dans ton salon avec toi.
Ouais. Hein, bon, c'est vrai que c'est maintenant la norme de faire ça en visio, mais voilà.
On aurait préféré t'inviter, est-ce que tu aurais été entre Arnaud et moi pour te faire un petit peu raffuter, que tu répondes un peu à nos questions. En général, on fait ça entre toi ici, les Moulineaux, les gens le savent, mais depuis un an avec le Covid, on a pu adapter ce format en distanciel, et ça marche plutôt bien. Alors, Alban, pour commencer, ma première question, c'est de savoir comment tu vas, parce que tu as été touché lors de la demi-finale de Champions Cup, où tu étais titulaire, donc c'est le radius, fracture du radius. Où tu en es aujourd'hui? Dis-nous.
Fracture du radius, du coup, je me suis fait opérer dimanche il y a 2 semaines. Et puis voilà, là, convalescence, je revois le chirurgien dans 1 semaine pour voir combien de temps il va me rester de cicatrisation de l'os, mais normalement c'est entre 6 et 8 semaines.
Alban, justement, comment on vit le fait de se blesser quand même assez durement alors que son club s'apprête à disputer une finale de Champions Cup? C'est quand même, ça arrive pas tous les jours dans une carrière, et malheureusement t'en seras pas.
Ouais, bien sûr, c'est rageant, c'est hyper rageant. De toute façon, malheureusement, on le sait que la blessure, elle fait partie du sport et encore plus du rugbyman. Mais bon, là, ça arrive pas au meilleur des moments. Après, voilà, c'est l'équipe. On va soutenir l'équipe à fond pour les derniers matchs de la saison.
Raph, justement, je voudrais aussi avoir ton sentiment. sans ironie aucune, mais les blessures, on sait ce que, enfin, tu sais ce que c'est. C'est quand même un moment pénible, ça a un peu marqué ta carrière. Est-ce que tu as le sentiment que voilà, ce rugby, il est quand même, il est quand même précaire, tu es bien placé pour en parler.
Précaire, oui, non, on sait de toute façon, comme l'a dit Alban, que c'est un sport à risque. Tu l'as dit, pour ma part, moi, j'ai joué, joué la plupart des matchs de la saison régulière et arrivé le moment de la demi et de la finale, je me pétais. Tel qu'on me voit, les gens ne le savent pas, mais j'ai deux opérations aux épaules, il y a une couille qui a explosé, je loupe la finale de Coupe d'Europe, j'ai le bras, j'ai une plaque dans le bras, j'ai six finales loupées, donc... Comme le dit Alban, c'est hyper rageant parce que tu arrives au moment des demi et des finales et putain, tu es en costard, tu regardes tes potes jouer, c'est hyper difficile. Et je pense qu'il y a, pour avoir vu justement le jeune Dupont en rééducation, il y a un soutien psychologique au Stade Toulousain. J'avais pu échanger avec le coach mental du Stade Toulousain, donc ils sont hyper suivis, chose qu'il n'y avait pas aussi à mon époque. À l'époque, c'était les kinés qui étaient un peu les psychologues. Aujourd'hui, voilà, je pense que c'est oui, c'est un sport à risque, on le sait, mais le joueur est suivi. Mais de toute façon, rien ne remplace le fait d'être 24e homme. Rien ne remplace. Alban nous l'a montré, il a une gouttière pour le bras. Moi, je l'avais pour en soulevant le bouclier en 2003. C'est difficile à vivre parce que tu es en costard, parce que tu cours sur le terrain pour aller féliciter tes potes le soir de la finale. Mais de toute façon, tu es en costard avec tes petits mocassins aux pieds et puis tes potes, ils sont en crampons et ça, c'est dur. Donc, je compatis avec Alban qui va vivre une finale et on lui souhaite de revenir. Est-ce qu'il y a possibilité d'ailleurs, Alban, selon toi, de pouvoir rééduquer, renforcer et être là pour les… Peut-être pas les phases finales, mais bon, s'il y a un petit poste de 23e homme pour la finale de top 14 qu'on vous souhaite à Toulouse, est-ce qu'il y aurait peut-être possibilité de la jouer si vous y parvenez, bien sûr?
Ouais, ben pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu prématuré de répondre. Je pense que après le rendez-vous du chirurgien dans une semaine, j'en saurai un petit peu plus là-dessus. Forcément, on a envie d'aller tirer, d'aller récupérer ces petites miettes si on peut les avoir dans des moments comme ça. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est des moments qui font qu'on se remet forcément en question en tant que sportif, qui est lié aussi à l'homme qu'on est. Donc, il y a une remise en question qui est un peu générale, qui arrive, je pense, à tous les sportifs. Donc après, c'est, comme tu l'as dit, d'avoir un suivi psychologique, d'avoir une aide, savoir à qui on peut parler, de quelle manière, peut-être changer certains points de vue ou prendre du recul. Et voilà, c'est vrai que prendre du recul là comme ça, ce serait de se dire que la saison s'est bien passée, que j'ai joué pas mal de matchs, que j'ai pris du plaisir pendant la saison, et donc forcément je fais partie du groupe qui fait qu'on arrive en phase finale. Et c'est vrai qu'avec le rugby actuel aujourd'hui, il y a plus 15 joueurs ou 23 joueurs, on est un effectif où on est 30-40, on s'entraîne toutes les semaines ensemble. Donc quand il y a une victoire, on se dit quand même que c'est le groupe entier qui a amené cette victoire. Et donc, on essaye de se consoler un petit peu comme ça.
Est-ce que tu l'appréhendes quand même ce moment? Imaginons, on est à Twickenham, il est, je ne sais pas à quelle heure est la finale, mais il est 18h, le Stade Toulousain est champion d'Europe. Est-ce que tu appréhendes ce moment, le moment où tes partenaires vont soulever peut-être ce trophée? Est-ce qu'il y aura un peu d'amertume? Est-ce qu'il y aura... de la joie, j'imagine, quand même, de voir ton club soulever un trophée européen. Mais voilà, est-ce que tu appréhendes ce moment?
C'est plus le moment d'avant. Le rendez-vous à l'hôtel, la remise des maillots, toute la préparation d'avant-match, de rentrer sur le terrain. C'est plus ces moments-là, je pense, où il y aura un petit peu d'amertume. Le moment où, si ça arrive, il y a une victoire et il y a levé le bouclier, à mon avis, c'est ces choses-là et s'effacent. Et on s'intègre à tout le groupe pour fêter ça ensemble. Et donc, du coup, ça devient une euphorie, quelque chose de très positif. Je pense que c'est plus avant le côté un peu amertume de se dire « mince, j'y suis pas ». On le sait, ces petits moments d'avant-match, de pression, l'adrénaline qui monte, de comment ça va se passer, comment l'équipe va jouer. C'est plus ce moment-là qui va être un petit peu frustrant à vivre.
Tu confirmes, Raph ?
Mais en parlant, mais moi, je me revois en 2001 avec Christophe Juillet dans une Volvo devant. J'ai pu Richard Poulzos à côté de lui et j'étais derrière, j'étais en costard et on allait… À Chantilly, il y avait un hôtel où on faisait les mises au vert les jours les semaines des finales. Et je me vois arriver en costard, Nani Corletto qui me prend dans les bras, Jérôme Fiol et tout. Et tu es là, c'est tous ces moments-là. En fait, c'est même pas les 2-3 heures d'avant. En fait, c'est toute la semaine parce que tu sais que la gamelle, elle est bonne. Tu sais que les potes sont là et ils savent ce que tu traverses. Ils le savent, mais de toute façon, eux, ils ont une direction. C'est la finale. Et toi, tu es juste à côté. Tu vis en parallèle. Je me souviens que le jour de la finale, C'était la finale de Coupe d'Europe en 2001. Il y a le bus devant moi et je suis dans ma R25 derrière, quoi. Donc, j'ai les flics à côté de moi. J'ai les flics à côté de moi qui sont derrière moi. Je suis le bus, mais je suis en costard. Et c'est vrai que ces moments-là, en fait, on a du mal à s'en rendre compte. Et moi, la question qui me vient à l'esprit, pour en discuter avec Gonzalo ce matin, on a échangé. Je ne sais pas si c'est tabou pour toi d'en parler, mais cette approche psychologique, j'aimerais qu'on en parle un petit peu parce qu'en parallèle de ta carrière, tu as eu un suivi aussi psychologique. On dit bien que moi, dans cette émission, je prône un homme bien fait dans un corps bien fait. Voilà, c'est l'homme avant le rugbyman. Pour former un bon rugbyman, il faut aussi qu'un homme soit complet dans sa tête et dans son corps. Et Gonzalo a échangé avec moi sur le fait qu'il a trouvé en toi un capitaine exemplaire, certes, parce qu'il y avait aussi un travail qui était fait aussi à côté sur le plan psychologique. Je me trompe?
Ouais, exactement. En fait, je pense que ça vient même d'avant. C'est du Pôle Espoir à Bayonne, où j'étais, et on a eu un directeur qui était incroyable, qui s'appelle Pierre Pérez, et qui nous a toujours dit que lui, il ne formait pas des rugbyman, il formait des hommes. Et en fait, c'est une phrase qui résonne encore en moi. Je trouve que c'est tout résumé, en fait, de parler comme ça. Je pense même qu'on ne peut pas être un bon rugbyman si on n'est pas un homme accompli et si on n'a pas essayé d'aller chercher un petit peu au fond de soi les problèmes qu'on a pu avoir avant, des situations d'échec qu'on n'a pas acceptées, tout ce genre de petites choses qui peut être derrière des freins dans l'activité sportive qu'on a. Et donc, oui, moi, à un moment donné, j'ai fait cette recherche-là, et en dehors, en dehors du cadre rugbystique, j'ai rencontré un psychiatre avec qui j'ai travaillé pendant 2-3 ans, en fait, vraiment pour revenir à une base solide. Donc, les questions, c'était des questions très simples, mais qu'il faut se poser, de pourquoi je joue au rugby, de pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi on fait autant de sacrifices. Et c'est essayer, en fait, au plus profond de soi de se donner ces réponses-là, qui sont des réponses qui sont complètement individuelles et qui sont à chacun différentes. Mais ouais, j'avais besoin de ça. Et puis, c'est vrai qu'un peu plus jeune, en espoir, je prenais pas mal de cartons. J'avais un jeu qui était très engagé, mais qui était à la limite constamment des règles. J'avais des moments où je pouvais un peu péter les plombs. Et en fait, ce côté-là de moi a fait que je voulais plus être un joueur comme ça. Et donc, je me suis avancé du coup sur ce côté psychologique-là et qui m'a fait énormément de bien. Sur lequel maintenant... je suis passé à autre chose, donc c'est cool.
Ouais, mais ce travail-là, moi, je le trouve hyper courageux. Et pourquoi je dis ça, c'est que ce que tu dis là, à un âge quand même où tu as envie de faire les 400 coups, où tu es dans l'extraversion, alors ça dépend du caractère, mais où tu as 17, 18, 19 ans, tu as envie de découvrir le monde. Moi, c'est ce que j'ai vécu à Paris. Bien sûr. Et c'est vrai que mes parents m'ont dit, il va voir quelqu'un. Et comme je ne voyais qu'à travers le club et qu'à travers la performance physique, et on me disait, avec 100 kilos, tu seras le meilleur, vas-y. Donc, je pétais les défenses pendant 6 mois. Mais après, les autres ont évolué aussi physiquement. Et mentalement, je n'ai pas eu ce fameux mental, en fait, je dirais, ce bon mental de me poser des questions. Pourquoi je joue au rugby? Pour aller vers quoi? Quelles sont mes motivations? J'appelle ça des motivations intrinsèques. Quelles sont mes sources de motivation intérieures? Pas pour prouver à mon père, pas pour prouver à ma mère, pas pour essayer de sauver le Stade français, pas pour marquer 3 essais comme je marquais à Beauvais. C'est trouver mes sources de motivation et trouver ma place dans l'effectif, chose que je n'ai pas réussi. Et ça a amené justement à beaucoup d'échecs qui m'ont permis de comprendre mes blessures. Mais après coup, et c'est pour ça que je voulais avoir ton point de vue, parce que le faire avant, ce travail-là, qui est quand même un sujet tabou dans notre société, au-delà de notre société, dans notre sport patriarcal, masculin, où on pense avec ses couilles et son cœur, d'y mettre un peu de tête, ça permet de se comprendre, de s'apprendre, et d'avoir un homme complet à 28 ans. Ce travail-là, tu n'as pas besoin de le faire à 30, 35 ans. Et voilà, il est fait, il est effectué, c'est comme la philosophie, on te fait découvrir la philo à 18 ans, mais découvre-la à 7, 8 ans, ça a un autre sens, une autre saveur. Et au moins, tu te libères des bagages et après, tu peux vivre ton chemin. Et c'est ça qui est cool. Voilà. Enfin, c'était juste la parenthèse que je voulais voir avec toi.
Ouais, non, c'est sûr. Après, c'est vrai que, comme tu dis, la démarche philosophique, philosophique, oui, mais là, pour le coup, plus psychologique, cette démarche psychologique, en fait, on a toujours l'impression, et comme tu dis, dans la société, de se dire, en fait, on est fou. Parce qu'on va voir quelqu'un, un psychologue, on est fou. Mais non, enfin, on peut très bien aller, mais avoir eu un accident de voiture qui nous a traumatisé quand on était plus jeune et pour lequel on a gardé en fait des choses dans l'inconscient qui qui nous ralentissent. Enfin, il y a multiples exemples là-dessus. Mais oui, moi, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important et pour lequel on devrait tous faire un travail de fond pour essayer de s'améliorer. Après, toujours pareil, de s'améliorer en tant qu'homme pour essayer d'être meilleur en tant que sportif.
Justement, Alban, tu disais que voilà, un homme meilleur fait forcément un meilleur joueur. Tu as anticipé ta reconversion, tu as suivi une formation lorsque tu étais au centre de formation du BO, tu as un diplôme d'ostéopathe. Le fait justement d'avoir assuré ton après-carrière, est-ce que ça te rend plus libre aujourd'hui et plus serein dans ta carrière de rugbyman?
Ouais, ça me rend plus libre et plus serein. Et au-delà de ça, c'est vraiment un équilibre que j'ai aujourd'hui. Pareil qu'à commencer en fait au centre de formation à Biarritz de faire des études d'ostéopathe en parallèle. J'ai toujours essayé de trouver un équilibre. Alors l'équilibre, il est pas forcément à 50-50. Et là, c'est l'exemple type. Enfin voilà, ça peut être du 90-10 aussi, mais ça reste un équilibre. Après, c'est vrai que moi, j'avais ce côté peut-être un peu anxieux. Et nous, on est une génération aussi où Raph nous a un petit peu impacté. Moi, je me rappelle, alors j'étais pas présent, mais je me rappelle de cette vidéo qui avait tourné quand tu étais venu en intervention en équipe de France moins 18 ou moins 19, mm-hmm. et où tu nous avais parlé de ton parcours. Mais en fait, nous, les générations qui arrivent là, on a tous cette vision du fait qu'une blessure peut nous arrêter au rugby, qu'on peut arrêter le rugby à tout moment, que on est en fin de contrat, on trouve pas un autre club, et ben on se retrouve en situation de chômage comme il peut y en avoir de plus en plus avec Proval. Donc c'est au final des choses qu'on a derrière la tête et qui peuvent nous gêner un petit peu et nous stresser un peu. Et moi, en fait, je me suis dit d'essayer de préparer ça le plus tôt possible, ça pouvait m'enlever un poids par rapport à mon évolution rugbystique. Et puis, comme je disais, cet équilibre, en fait, d'avoir quelque chose un petit peu à côté. Alors, c'est pas forcément qu'ils prennent énormément de temps, mais au moins, c'est d'avoir un petit échappatoire sur le rugby et ce qui permet en fait d'avancer les deux en bonne manière, quoi.
Est-ce que je trouve que le discours est hyper posé. Est-ce que tu penses que ça vient de ton éducation, ça vient de tes parents, ça vient des valeurs du rugby qui au coin du comptoir, on dit toujours les valeurs se font la malle. Non, mon cul, elles sont toujours là. D'ailleurs, tu en es l'exemple type aujourd'hui. Donc ça, et tous ceux qu'on invite ici, donc ça prouve qu'en général, les valeurs sont incarnées. Donc est-ce que c'est un tout? Ou est-ce que tu rendrais peut-être hommage indirectement à tes parents? Est-ce que c'est de l'éducation, de cette ouverture que tu peux avoir par rapport au double projet, par rapport à la psychologie, par rapport au discours que tu peux avoir aujourd'hui?
Je pense que c'est un peu un tout, forcément. Je pense que il y a forcément le côté des parents. Les parents, moi, qui m'ont toujours incité à travailler. Moi, je travaillais plutôt pas mal. J'étais pas un excellent élève, mais je travaillais plutôt bien. Et ils m'ont toujours dit de continuer les études, même quand je commençais à faire un peu de rugby. Il y a aussi, je pense, ma personne. C'est vrai que je m'intéresse à beaucoup de choses. J'essaye d'être le plus complet et entier possible pour avancer. On n'est jamais fini en tant qu'homme. Je veux dire, on apprend tous les jours de plein de choses. Donc ouais, je pense que c'est un petit peu tout ça qui fait que j'en suis à cette réflexion là aujourd'hui.
La vache, je pense que si j'avais juste avant Arnaud, si j'avais eu ton cerveau à ton âge, je serais encore en équipe de France à 40 ans. Vas-y, enchaîne, Arnaud.
Non, j'avoue, ça valait le coup que je me taise. On va parler un peu de sportif, Alban, quand même. Ouais. Tu as débuté dans le monde professionnel à Biarritz. C'est arrivé dans un club en passant derrière ce qu'on a appelé les Galactiques, hein, les Trailles, Arénor de Ki, Betsen, Thion, enfin, Yashvili, j'en passe, et des meilleurs. Comment tu as vécu cette découverte du monde pro? Est-ce que l'héritage n'a pas été parfois trop lourd à porter?
Ah ben, l'héritage, il était très très lourd. Moi, j'ai commencé à m'entraîner avec eux. J'ai joué que très peu de fois. La dernière année en top 14 du BO, j'ai fait deux apparitions au Racing et au Stade Toulousain, mais je m'entraînais beaucoup avec eux. Et c'est vrai que de pouvoir s'entraîner avec des Dimitri Yachvili, des Damien Traille, des Imanol Arinordoki, c'est quelque chose quand même de costaud. C'était des joueurs qui était sur la fin de carrière, qui avait une expérience monstre, qui avait un nombre de sélections incroyable. Et c'est vrai que ce n'était pas évident de trouver sa place dans ce groupe-là. Et le fait de descendre en Pro D2, bah, je pense que la transition, elle a été difficile. L'héritage était aussi lourd. Et il y a du coup une double. Voilà, il y a un côté positif et un côté négatif à être descendu. Le côté positif, ben, je pense que ça a pu faire émerger une génération de jeunes ben, qui étaient quand même beaucoup plus jeunes qu'à l'époque. Et d'un autre côté, ça mettait aussi la pression de se dire qu'il fallait que Biarritz remonte en top 14, d'avoir d'autres ambitions pour le club. Et puis bon, ben, malheureusement, on n'en est pas là aujourd'hui avec Biarritz, mais bon, en tout cas, c'était ça qu'il y avait comme objectif quand on est descendu en top 14.
Alors, ça reste encore très positif et aussi très négatif encore aujourd'hui, parce que positif, le
Ouais.
Biarritz Olympique va jouer les finales, les phases finales aussi, mais le côté négatif, c'est un petit peu cette espèce de guéguerre qui amène, voilà, le président qu'on a entendu beaucoup ces derniers temps parler de délocalisation parce que ça ne s'entend pas avec la mairie. On l'a reçu d'ailleurs dans l'émission. On entendait aussi le discours d'un président qui amène beaucoup d'argent, certes, mais qui en oublie peut-être un petit peu les. Voilà, et à la fois les anciens, et t'en fais partie maintenant que tu joues au Stade Toulousain, mais aussi les supporters. On parle de délocalisation, donc positif pour le Biarritz, négatif aussi. Comment toi tu le vis maintenant à l'extérieur, maintenant que tu en es parti depuis 2 ans maintenant, comment tu vois les choses,
Du
sachant que
côté
tu
de
as été formé
Biarritz?
là-bas? Hein, ouais.
Ouais. Bah, moi, après, c'est ma ville. C'est vrai que je suis né à Biarritz aussi. Donc, j'ai quand même une grosse attache là-bas. J'ai encore ma famille qui est sur Biarritz. Bah, c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur de voir le BO dans cette situation entre guillemets hors rugby. Il y a eu beaucoup d'histoires en fait depuis la descente en Pro D2. Il y a eu beaucoup de changements de président. Il y a eu beaucoup de projets avortés, de choses qui sont pas allées au bout. Et je pense qu'aujourd'hui, ce serait bien que le BO arrive à retrouver une stabilité et vraiment pouvoir reconstruire les choses. Là, après, c'est super pour le BO de pouvoir commencer à reprendre un peu les phases finales de Pro D2, retoucher un petit peu des matchs intéressants. Mais voilà, après, c'est vrai que c'est toujours compliqué ces histoires qu'il peut y avoir dans l'extra rugby qu'on ne maîtrise pas forcément quand on est joueur, qu'on regarde un petit peu sans trop pouvoir intervenir. Voilà. Après, moi, c'est vrai qu'il y a un côté que je trouve voilà, intéressant dans les clubs comme ça pour revenir à quelque chose, c'est la transmission. Et on se rend compte que ben, il y avait nous une transmission qu'il y avait avec les joueurs comme Imanol, Dimitri, mais aussi des générations passées. Moi, je me rappelle que je parlais énormément avec Michel Celaya. Voilà, qui était tout le temps là, qui allait voir tous les matchs de l'école de rugby jusqu'aux espoirs. Il venait filmer les matchs. Il avait une importance. Voilà, il était hyper discret, hyper humble. Mais par contre, si tu allais le chercher, eh bien, il te donnait tout. Et en fait, c'est des transmissions comme ça qui serait bon d'arriver à retrouver un petit peu dans le rugby, de toujours en fait savoir le passé, que ce soit des joueurs ou du club, ben ça amène quelque chose quoi. C'est des leçons de vie et qui nous permettent d'avancer voilà avec des choses costauds quoi.
Alban, j'aimerais qu'on aborde un aspect un peu spécial de ton statut au Stade Toulousain. On va parler un peu du Stade Toulousain hein, parce que c'est ton actu. Aujourd'hui, cette équipe elle est composée de stars, on va le dire. Voilà, c'est un mot. Je sais que chez les joueurs de rugby, on n'aime pas trop, mais il y a celui qu'on appelle le meilleur joueur du monde, le ministre de l'Intérieur, Antoine Dupont. Il y a des stars étrangères. Comment tu as réussi à trouver ta place dans un effectif qui est constellé de joueurs internationaux. Comment on fait quand on arrive de Pro D2 pour s'imposer? Tu joues, si je ne me trompe pas, ta troisième saison aujourd'hui avec le Stade toulousain, et on a l'impression que petit à petit, l'oiseau a fait son nid.
Ouais, je me sens hyper bien dans l'effectif. Ouais, c'est vrai, il y a énormément de stars, mais nous, en fait, on le voit pas forcément comme ça. C'est vrai que de l'extérieur, c'est des stars, mais nous, on s'entraîne tous les jours avec eux. On est à 3 casiers d'écart d'eux. Je veux dire, ils ont, comme on peut le dire souvent en rugby, ils ont 2 bras, 2 jambes. Donc oui, ils ont des choses de plus dans le talent qu'ils peuvent avoir dans le rugby. Et au contraire, je trouve que c'est des choses incroyables de pouvoir jouer avec des joueurs comme ça, se nourrir de leur talent, de leur capacité physique. C'est voilà, il y a toujours, comme tu le dis, le ministre de l'Intérieur, mais en fait, à n'importe quel moment qu'on franchisse, on sait qu'on peut faire pratiquement la passe à l'aveugle. À l'intérieur, il sera là, quoi. Donc voilà, c'est aussi des choses qui sont incroyables et qui nous permettent d'évoluer beaucoup aussi dans notre rugby.
À Toulouse, quand même, il y a des ministres à tous les postes, quoi. C'est à l'intérieur, à l'extérieur. En général, ouais. T'es plaqué, le mec, il arrive à toujours faire sa passe. Et pour un mec qui a jamais su faire de passe, je peux vous dire que je suis quand même assez...
C'est vrai que c'est incroyable, et je veux dire, c'est tout le temps comme ça. Je pense que c'est une énorme force qu'il y a au Stade toulousain, c'est que c'est appris depuis tout jeune. C'est la culture, tous les jeunes qui sont issus de la formation jouent comme ça. C'est quelque chose qui est ancré dans le club et qui est incroyable dans la manière qu'ils arrivent à transmettre à tout le monde. Et au départ, quand on vient d'un autre club, c'est difficile d'apprendre, d'absorber ces choses-là. Mais quand on commence à y arriver, c'est quelque chose de génial.
On a quand même l'impression que depuis ton arrivée en 2018, tu prends de plus en plus de place dans l'équipe. La preuve, tu étais titulaire lors de la demi-finale de Champions Cup. Comment tu juges, toi, ton évolution dans ce club? Comme tu l'as dit, tu n'es pas issu de la formation toulousaine des Biarrotes. Mais comment, tu t'auto-juges? Parce que tu as l'air d'avoir quand même un regard sur toi assez, assez lucide. Comment tu juges ton entrée dans ce club, ton arrivée et puis l'émancipation?
Ouais, c'est vrai que je suis arrivé un petit peu sur la pointe des pieds. Je ne savais pas vraiment sur quoi j'allais. En plus, il y avait la transition quand même Pro D2 Top 14. Au départ, énormément de charges de travail par rapport à la Pro D2, il y a beaucoup plus d'entraînement, les entraînements sont plus intenses. Donc j'ai eu un gros moment d'adaptation. Et puis après, un peu comme je l'ai toujours fait. Alors il y a des moments, je pense que ça peut aller plus vite, mais moi j'ai besoin de comprendre comment les choses fonctionnent, avec qui je joue, de connaître mes coéquipiers. De pouvoir discuter avec eux, savoir comment ils vivent, les choses autour du rugby. Moi, j'ai besoin d'apprendre ça pour me sentir bien autour de la structure. Et puis, cette année, j'ai eu aussi l'opportunité de jouer un petit peu plus. J'avais quelques soucis à résoudre, toujours pareil en termes de rugby, en termes de personnes. Je suis hyper content de mon évolution. Et puis je pense qu'on peut toujours évoluer. En fait, il y a toujours, comme je te l'ai dit, il y a toujours des choses à apprendre et on apprend toujours. Et il y a des moments où on fait des erreurs. Il faut essayer de tirer des leçons de ces erreurs pour pas les refaire, pour s'améliorer. Donc là, en tout cas, c'est vrai que cette année, je me sens hyper bien. Je me sens hyper bien dans le club, dans l'équipe, et je prends énormément de plaisir à jouer les week-ends.
Alban, dis-moi si je me trompe, on a quand même le sentiment aussi que tu es arrivé au meilleur moment, au moment où le Stade toulousain était en train de retrouver ses lettres de noblesse. Alors beaucoup pensent aujourd'hui que Hugo Mola est le meilleur entraîneur, meilleur manager français. Alors, je sais que tu ne vas pas me dire que c'est une pipe, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de son management?
C'est le mec qui craque complet, tu sais. Ouais. Ouais. Je dis, je vais régler mes comptes.
Non, surtout que j'ai aucun compte à régler avec Hugo aussi. Non, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je pense aussi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est quelqu'un qui vit pleinement le rugby, qui est hyper engagé dans tout ce qu'il fait, dans la manière dont il nous dit les choses. Et, ça peut paraître parfois un peu brutal, mais ça nous pousse toujours à aller chercher plus loin la limite qu'on peut avoir. Et c'est vrai que sur cette année-là, en particulier la première année où j'arrive, il pousse tout le monde dans ses limites physiques et mentales. Et c'est ce qui fait qu'on fait une saison incroyable et qu'on va chercher le titre. Donc c'est vrai qu'il a ce côté-là, peut-être un peu, qui peut paraître un peu extrême, mais qui pousse tout le monde à aller chercher le meilleur de soi. Et donc pour ça, ouais, je pense que c'est vraiment un bon entraîneur.
Est-ce que l'une des forces, ou à la force du Stade Toulousain, c'est cette capacité à sortir de nouveaux joueurs de la formation? Et la question, tu sais que dans mon émission, il y a toujours une question un petit peu conne, mais comme tu sais, c'est Arnaud qui devait normalement la poser, celle-là, et c'est lui qui l'a posée. Mais on a parfois l'impression que, quelle que soit l'équipe, la performance ne varie quasiment pas. Pourquoi je dis quasiment pas? Parce que quand même, ce week-end, ça a été un petit peu compliqué, sachant que ça a tourné, vous en avez pris 48. Donc voilà. Et comme par hasard, cette question, c'est Arnaud qui devait la poser, tu vois.
Oui, mais là, alors, je vais rebondir, c'est que moi, j'ai quand même été impressionné, notamment par les 35-40 premières minutes du Stade Toulousain sur cette rencontre, et qu'il y a des faits de jeu malencontreux pour le club, qui fait que finalement, ça bascule. Et puis après, effectivement, bon, il y avait quand même un remix, on va dire, dans la composition du stade, dans la composition du banc. Le coaching n'a pas été forcément celui qu'il aurait pu être s'il n'y avait pas eu une finale de Champions Cup dans 15 jours. Donc, je pense que la question, elle se vaut quand même, parce qu'en termes de production, même s'il y a 40 points au final dans la musette, la production rugbystique était très plaisante à suivre.
Exactement. Donc, je tempère mes propos parce que maintenant, tu sais bien, Alban, qu'avec les réseaux sociaux, il faut de toute façon mesurer tes propos. Sinon,
tu vas te faire défoncer.
On va couper la séquence.
Justement, on va la garder, justement. Et on répondra en plus au hater. Non, pas du tout. Ouais. C'est vrai que voilà, il y a eu, il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 semaines, il y a eu une relance, il y a eu une relance absolument magnifique de l'embut. Ah, donc, non, bien sûr que le talent est là. C'était juste pour la petite anecdote de cette question tombe au moment où le Stade Toulousain prend 50 points. Bon, voilà, bref. Ouais. À toi de jouer maintenant. Vas-y, rebondis.
Non, mais en tout cas, sur le match de ce week-end, c'est vrai, bon, je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de turnover. Il y avait des joueurs qui manquaient un petit peu de temps de jeu. On a vu qu'il y avait des automatismes qui n'arrivaient pas à des passes qui normalement, vont au bout et là qui échouaient. Voilà, beaucoup de nouveaux joueurs. Il y avait aussi les deux Argentins au centre qui commençaient. Ça fait pas très longtemps qu'ils sont là. C'était leur première titularisation à eux deux. Donc il y avait quand même pas mal de choses qui ont fait que c'était pas génial. Et puis oui, voilà, il y avait quand même ces 35 premières minutes qui étaient de qualité. Et c'est vrai que si on marque ces 2-3 essais qui ne sont pas très loin, ça change la physionomie du match aussi. Mais après, pour revenir un peu sur l'aspect général, ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui est hyper, hyper intéressant au stade. C'est toujours cette concurrence positive qu'il peut y avoir. C'est qu'il y a énormément de joueurs à tous les postes. Et que quand on a une opportunité, en fait, on ne peut pas se louper de la prendre, cette opportunité. Donc, ça pousse tous les joueurs à tout le temps aller chercher le maximum d'eux-mêmes dans tous les matchs qu'on peut avoir. On sait que si on fait un match un peu moyen, derrière, on va être remplacé. Ça donne l'opportunité à un autre de jouer. Et s'il fait des meilleurs matchs, il continue à jouer. Donc, il faut réattendre son tour. Donc, il y a comme ça une concurrence qui est hyper positive avec tous les joueurs de nos postes. Quoi. Moi, je m'entends hyper bien avec tous. Et en fait, on essaye tous de se tirer vers le haut, donc de faire des exercices en plus. On se les fait ensemble. C'est de bonne guerre. Mais en même temps, voilà, il y a ce truc-là de compétition en interne qui fait que quand il y en a un qui est remplacé, l'autre, il va donner tout ce qu'il peut pour garder la place. Quoi. Je pense qu'il y a un côté un peu comme ça.
Alban, on va parler un peu de l'actu. On va forcément parler de cette finale de Champions Cup. Dans 10 jours, le stade va affronter le stade Rochelet. Comment tu la vois, cette finale? Bon, sans parler que malheureusement, tu n'y seras pas. Comment tu la vois? On a le sentiment qu'aujourd'hui, on retrouve en finale de Champions Cup les deux équipes qui pratiquent peut-être le plus beau rugby actuellement en France, mais aussi en Europe.
Oui. Bah, c'est sûr, hein, La Rochelle, quand on voit la demi-finale qu'ils ont fait contre le Leinster, qui était vraiment incroyable. Ouais, c'est... c'est, je trouve, une équipe qui nous ressemble un petit peu, et qui a une très grosse densité physique devant, avec des joueurs qui sont vraiment très costauds. Et puis derrière, ça va très vite, ça joue dans tous les sens. Donc ouais, ça va être, je pense, une super rencontre. Voilà, c'est toujours frustrant de ne pas pouvoir jouer des matchs comme ça, parce qu'on sait que ça va être des rencontres qui vont être très serrées, très intenses, et sur lesquelles il y aura toujours des petits faits de jeu qui vont faire basculer le match d'un côté ou de l'autre. Voilà. Et puis en plus, la reprise aussi, je pense qu'il ne faut pas la négliger de 10 000 spectateurs, parce que ça fait quand même un an qu'on joue à huis clos, donc on se parle d'un bout à l'autre du terrain, on s'entend. Là, ça va être un retour à quelque chose de différent. Donc il y aura des choses à anticiper un petit peu avant ce match, aussi par rapport au public qui pourra y avoir.
Alors justement, on va parler du public deux secondes. C'est Thomas Ramos qui disait que c'était regrettable quand même de jouer cette finale à Twickenham. Et c'est le PCR qui a décidé, avant de connaître les deux finalistes, de mettre ce match en Angleterre, avec tout ce que ça comporte aussi de protocole. C'est un peu frustrant quand même de se dire qu'on peut enfin retrouver le public. Voilà, on l'a dit.
Mais alors, pas le public français.
Alors, oui. Pas le public français. Mais d'un autre côté, la chance, c'est qu'on sait qu'à partir du 19 mai, c'est 1000 personnes dans les stades. Et que là, c'est 10 000 en Angleterre, comme quoi l'Angleterre a de toute façon toujours un mois ou deux mois d'avance. Je sais pourquoi je parle de ça, c'est qu'en parallèle de Poulain Rafut, je bosse pour des autotests. Donc, je comprends. Non, mais sur les protocoles, aujourd'hui, en Angleterre, on a la possibilité de jouer devant 10 000 personnes, ce qui est génial. Mais ce qui va donner aussi les problématiques du déplacement des Rochelais et des supporters toulousains aussi, d'aller en Angleterre, donc de passer aussi pour ce protocole pour aller jouer à Twickenham. Il y a quand même un peu d'un dysfonctionnement dans les choix de l'OPCR, non ?
Juste petite précision, Alban, avant que tu répondes, il y aura pas de supporters français puisque ils sont pas autorisés à se déplacer à Twickenham. C'est uniquement il y aura des supporters anglais,
résidents, ou des Français
ou résidents, des résidents, voilà.
À Londres, ouais. Non, mais après, moi, je vais pas j'ai pas grand chose à dire sur ces choix de l'EPCR. Il y a forcément des critères peut-être qu'on maîtrise pas, qu'ils soient économiques ou autres. En tout cas, c'est sûr que c'est regrettable d'avoir une finale franco-française qui se joue à Londres. L'avantage, c'est que si on l'aurait joué en France, c'était à huis clos. Là, il y a 10 000 personnes. Bon, même si ça reste des Anglais ou des Français qui résident en Angleterre, bon, ça met un petit peu de monde. Voilà. Bon, c'est pas grand-chose de plus à dire dessus.
Je suis pas certain que ce soit un problème économique, parce que vu depuis un an, les mecs, vous jouez à huis clos, c'est pas 10 de plus ou même 10 000,
oui,
10 000,
oui.
10 000 de moins. Voilà, bon, ça paye les clopes, les 10 000 peut-être, mais bon, ça fait quand même un an que tu joues, que tu joues sans dégain, quoi. Donc là, tu jouais ta finale en France avec 1000 supporters, tu faisais 500-500, tu retrouvais des supporters quand même. Bref, c'est le choix de l'EPC.
Oui.
Alban, t'as re-signé au mois de janvier, je crois, au Stade Toulousain jusqu'en 2023, si je ne me trompe pas. Et est-ce que t'as 28 ans, si je ne me trompe toujours pas, est-ce qu'à un moment ou un autre, t'as été tenté par... parce que quand on voit la façon dont tu t'es structuré, quand on voit ton parcours, est-ce qu'à un moment ou un autre, tu t'es posé la question d'aller voir ailleurs ? Quand je dis ailleurs, ce n'est pas forcément en France, mais je ne sais pas pourquoi, t'as un profil à tenter une aventure peut-être à l'étranger un jour.
Oui, après ça... Oui, bon, j'ai re-signé au stade. C'était en janvier de l'année dernière, de la saison dernière. Donc oui, jusqu'en 2023. Ben après, en fait, ouais, moi, j'aime bien quand même rester dans les clubs parce que je trouve qu'il y a ce qui est intéressant dans le rugby aussi, c'est de pouvoir créer du lien avec les gens et parfois de changer un petit peu trop de club rapidement. On a du mal à créer des liens d'amitié avec les joueurs, avec l'encadrement, avec le staff, ce genre de choses. Donc moi j'aime bien rester dans les clubs. Après je sais pas, on verra en 2023. C'est vrai que j'aurai 30 ans. Je pense que j'aurai encore, j'espère, quelques années à jouer. Si je peux rester en top 14 et à Toulouse, pourquoi pas. Mais c'est vrai que, pourquoi pas, derrière ça, signer une aventure à l'étranger. Moi, ça me plairait vachement de voir un autre fonctionnement, de voir comment on s'entraîne ailleurs. Bon, c'est de la curiosité. Je me ferme aucune porte. Je pense qu'il n'y a pas forcément à s'enfermer aujourd'hui. Mais si ça m'arrive, Si ça m'arrive, je pense que ce serait sympa. Ouais.
J'ai pris une claque quand tu as dit en 2023, j'aurai 30 ans. Je me dis, moi, je vais en avoir 33. Et tu imagines, Arnaud, on aura 52. C'est fou. Hein.
Non, moi, j'imagine pas.
Tu l'auras compris, on s'envoie quelques petits fions. Voilà. Je crois savoir que tu travailles aussi parfois avec, alors je ne sais pas si on peut le citer, M. Ira Storza, quand même. C'est quand même un homme de communication dans le milieu du rugby.
Oui.
Peu de gens le connaissent, mais il fait un gros travail. Notamment, je pense qu'il avait bossé avec Titi Boss, toujours avec Titi du Sautoir, notamment. Donc, tu as un agent d'image pour t'accompagner dans ta communication. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as décidé de t'entourer de... Bon, le nom, il n'est pas Picard, hein, Ira Storza. Donc, il est de la région, il y a...
Ouais, forcément, on essaye de faire travailler dans la région.
Bien sûr.
La mafia basque.
Non, après, ouais, c'est quelqu'un que j'ai pu rencontrer assez par hasard, par le biais d'un ami en commun. Et oui, je pense que ça fait partie aussi maintenant du rugby actuel, c'est de pouvoir bien communiquer ou au moins de pouvoir dire les choses comme on le ressent. Et ouais, moi, je suis quand même de nature très réservée. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment très timide. Donc, j'ai du mal à m'exprimer comme ça devant des gens ou même à retranscrire peut-être ce que je peux penser de manière orale. Et donc, ouais, j'ai trouvé Pascal hyper intéressant sur ce côté-là. Et depuis qu'on travaille ensemble, je sens que les choses avancent. Donc, c'est cool. Je pense que c'est une partie aussi importante, tout comme la psychologie. C'est une partie importante maintenant du rugby actuel de pouvoir parler correctement.
Alors, si tu le considères comme timide, là, j'y peux rien, là, je comprends pas, parce que là, tu vois, l'émission, normalement, tu avais annoncé 30 minutes, mais 45 ou 50 minutes à cause de moi. Là, on fait 45 minutes et c'est grâce à toi. Donc,
je parle un peu trop.
Non, au contraire, c'est plaisant.
Non, c'est plaisant parce qu'il y a une profondeur, quoi. Tu vois, à la différence de moi qui fais des grands monologues à rallonge. Arnaud est presque obligé de me brancher une musique pour me faire faire. D'ailleurs, enchaîne, Arnaud.
Musique de fond.
Non, mais moi, c'est ce que j'allais dire pour conclure. C'est que ça ne va pas faire plaisir à Pascal, mais ça, tu peux le congédier. Il a fait un super boulot. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de lui. Quand on voit la capacité que tu as à verbaliser et à expliquer un peu ta démarche, je trouve ça assez remarquable et franchement, Raph pourra confirmer, on a passé un très bon moment à échanger avec toi et on a, enfin moi j'ai trouvé qu'il y avait de la profondeur dans ton propos et franchement je pense qu'il y a un paquet de joueurs de ta génération qui devraient peut-être prendre exemple sur les différentes démarches que tu as pu entreprendre. On parle de celle-ci par rapport à un agent image, on parle de celle d'aborder l'aspect psychologique et quand on voit ton parcours, quand on arrive de Pro D2 et qu'on s'impose au Stade Toulousain comme tu es en train de le faire, je me dis qu'il n'y a pas de hasard.
Merci beaucoup, super gentil. Moi aussi j'ai passé un super moment avec vous, c'était très plaisant de pouvoir échanger avec vous.
Donc, en fait, les gars, vous êtes en train de clore l'émission alors que j'ai encore une question à poser.
Alors que c'est ton émission.
Alors que c'est là, mais faites comme vous voulez. À la limite, je me barre. Hein. Je ne sais pas, il faut que j'aille chercher mes gosses et je peux y aller. Hein. Non, moi, j'avais une dernière question quand même. Est-ce qu'au Stade Toulousain, comme au Stade Français, des clubs qui visent encore le très haut, voire le summum, nous, quand on rentrait dans le... Bah en ce moment, Arnaud, je te
vois. En ce moment, c'est difficile de comparer quand même.
Je ne compare pas. Non, mais je parle de l'ambition, mais de clubs. Je reste encore dans ma nostalgie des années 2000, certes, mais nous, on rentrait dans cette salle de réunion et Max disait, voilà, on va être champion de France, champion d'Europe, c'est l'objectif. Cette année, vous jouez sur les œufs de tableau. Est-ce qu'en début d'année, Hugo Mola vous a enfermé dans une pièce, vous a dit, cette année, on va être champion de France, champion d'Europe. De toute façon, je vois ton petit sourire, mais tu vas être obligé de répondre pour le langue de bois, vous visez bien doublé. Ma question, elle est conne en plus, parce que.
Je ne l'ai pas écrite.
Je la prends pas celle-là, mais tu sais, les mecs peuvent me répondre, non, connard, en fait, non, on va s'arrêter, puis on ne va même pas aller jouer la finale, et puis on va s'arrêter sur les phases finales, que ça ne sert à rien. Vas-y, à toi.
Non, je pense non. On est en tout cas, on s'est pas enfermé dans une salle pour se dire qu'on allait faire le doublé. En plus, c'est une année Covid, donc c'est une année hyper particulière. Il y a eu des matchs reportés, des décalages, des clubs qui avaient trois matchs de retard sur d'autres. Donc non, ce qu'on s'est dit en tout cas, c'est d'essayer de pouvoir accrocher le haut du tableau rapidement et de pouvoir y rester pour pouvoir s'ouvrir un peu l'horizon en fin de saison. C'est ce qui se passe. Et puis, forcément, après, quand on commence à rentrer dans les phases finales, on se prend à, à rêver, à avoir des ambitions qui sont plus hautes. Après, on le sait, c'est hyper dur. Là, ça va faire un an qu'on a repris les entraînements parce qu'on a repris la pré-saison juste après le confinement le 11 mai. Donc, c'est une saison qui est ultra longue. Donc, déjà, de pouvoir continuer à faire des matchs de haute performance jusqu'à la fin de saison. On va essayer de faire ça. Après, forcément, je pense que toutes les équipes qui sont encore en course pour le championnat, ils rêvent de gagner. Nous, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir encore espérer gagner les deux. Donc, on espère un petit peu. Après, on sait que c'est quand même très, très difficile.
Alban, vraiment, merci beaucoup. Et je pense que, comme le disait Arnaud, on a passé un super moment, qui nous change d'ailleurs de Greg Coupé, mais qui était complètement différent, franchement. Mais tu sais, mais c'est ça qui est génial, franchement.
C'est ça qui est cool.
Ah, mais c'est top. Ah, ouais, mais nous, enfin, Greg, il nous a régalé la semaine dernière, il nous a régalé encore différemment cette semaine. Donc, voilà. Et puis, c'est des leçons, tu vois, même à 40 ans, d'entendre des mecs de 28 ans nous parler comme ça. Voilà. Merci à toi.
Non, merci à vous. Ouais,
c'était vraiment un chouette moment. Et puis, j'allais dire bon rétablissement, oui. Ouais. Je pense que ce sera compliqué pour toi d'ici à la fin de saison, en tout cas, de revenir terrain. Mais on peut te le souhaiter. Écoute, on ne sait jamais.
Ouais, là, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà. Si le chirurgien me dit feu la semaine prochaine. Non, on va voir. Je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Mais comme tu dis, je vais attendre la semaine prochaine de voir le chirurgien et d'en savoir un peu plus sur la fin de la convalescence.
En tout cas, dis-toi que si, je penserai à toi pour la finale, parce que je sais ce que tu vas faire. Je sais qui c'est. Donc gentil. Voilà. Merci. Et en tout cas, bonne fin de saison au Stade Toulousain, bonne fin de saison à toi. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, Arnaud.
Avec grand plaisir, Raph.
Pour un nouveau numéro. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end rugby. Éteignez vos GSM, regardez par la fenêtre. Et je pense que Alban sera d'accord avec nous pour vous dire que ouais, la vie est belle. Allez, ciao.
Profitez de la vie. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.